VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Cotonou. Bienvenue à notre journal. Au Bénin, prestation de serment aujourd'hui de l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de la présidentielle avec plus de 65% des voix. Dans son discours d'investiture à Porto Novo, la capitale politique, le nouveau président du Bénin s'est engagé à n'exercer qu'un seul quinquennat. Une des grandes promesses de sa campagne présidentielle. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité, a affirmé le président Talon en soulignant sa détermination à mettre en place de grandes réformes politiques et institutionnelles dans le pays. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a déclaré aujourd'hui inconstitutionnelle la décision du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de révoquer le mandat de 15 députés du groupe parlementaire du PAIGC, le parti au pouvoir, parce qu'ils avaient voté contre le programme du gouvernement. Les détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Selon une source fiable, les parties impliquées dans le processus vont être informées aujourd'hui au sujet de l'arrêt de la Cour suprême qui sera ensuite rendu public à la presse. Les 15 députés avaient et toujours rejeté la décision du comité permanent parce que selon eux, le comité permanent aurait violé le statut de député. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire n'ont pas encore réagi à cette décision de la Cour suprême. On le rappelle, les responsables de l'Assemblée nationale populaire avaient affirmé que la décision de retirer le mandat aux 15 est irréversible. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
En Guinée-Conakry, une personne est morte dimanche suite au virus de l'Ebola. Cela porte à 8 le nombre de décès sur 9 cas recensés depuis la réapparition de la maladie dans le pays. Idriss Fall.
D'après Ibrahim Sila du centre de traitement Ebola à Nzérékoré, il y a 8 morts et sur 9 cas confirmés. La dernière victime est une dame qui est décédée dimanche. Plus de 1300 personnes susceptibles d'avoir été contaminées par des malades ont été vaccinées, dont 242 sont considérées à haut risque. Deux personnes qui ont fui Koropara sont activement recherchées. La Guinée avait été déclarée exempte à la fin décembre, mais le 17 mars, de nouveaux cas ont été découverts près de la frontière avec le Libéria, où le virus Ebola a également refait surface. À Monrovia, les autorités ont annoncé que la femme décédée d'Ebola était venue de Guinée. Elle avait franchi la frontière avec ses 3 enfants, dont l'un a été testé positif puis hospitalisé, et les 2 autres ont été placés en quarantaine.
Au Niger, 2 civils tués par 2 kamikazes qui se sont fait exploser mardi dans un véhicule de transport public près de Difa, dans l'extrême sud-est du pays. Le point avec John Lyndon.
Le véhicule transportait des passagers sur l'axe routier Difa-Bosso, près du Nigeria. Selon un habitant de Difa, une femme et un enfant et les 2 kamikazes ont été tués dans l'explosion. C'était le jour de marché à Difa. Immédiatement après l'attaque, 2 avions ont survolé la ville, apparemment pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration de combattants islamistes. Le 30 mars, 6 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments de Boko Haram. Environ 2 semaines plus tôt, le 17 mars, 3 jours avant la présidentielle, un commandant de l'armée nigérienne a été tué par des kamikazes. Ces violences ont conduit à des déplacements de centaines de milliers de personnes dans la région. En plus de Boko Haram, le Niger déploie aussi un effort particulier pour contrôler le risque d'incursion des djihadistes venant du Mali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le bilan des récents affrontements au Congo-Brazzaville maintenant. Selon le gouvernement, 17 personnes, dont 3 policiers, 12 assaillants et 2 civils, ont trouvé la mort pendant les violences dans la capitale. Par ailleurs, les autorités affirment détenir des preuves accablantes contre le pasteur Tatan Toumi, ancien chef ninja, comme principal auteur de cette attaque. Dans la ville de Brazzaville, le calme est maintenant revenu dans les quartiers sud, mais le déploiement militaire et policier reste intact, ce qui retarde le retour massif des populations. Congo-Kinshasa, l'ONG congolais Justicia ASBL a adressé une lettre ouverte au ministre de la Défense concernant la récente militarisation de la province du Katanga à l'approche des élections. Nathalie Barge a joint le président de cette ONG, Timothée Mbouya, à Lubumbashi.
depuis le vendredi passé, nous avons constaté effectivement qu'il y a une très forte présence militaire dans la ville et les populations sont très, très inquiètes. Une soixantaine de chars d'assaut sont arrivés donc à Lubumbashi et selon les informations que nous disposons, les chars sont restés à Kalina et quelques autres vont devoir arriver à Kalini et à Kolesi. Plus ou moins, 10 000 commandos sont aussi arrivés. Certains sont restés à Kalina et d'autres vont être déployés dans les villes que je venais de citer tantôt. Ça fait que l'activité économique et les déplacements de la population sont plus ou moins réduits. Mais la nuit, les gens sont malheureusement obligés de rentrer à la maison un peu plus tôt parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer et pourquoi toutes ces manœuvres militaires.
Alors justement, est-ce que l'on vous a donné une explication sur cette présence militaire officiellement?
Je crois que nous avons constaté cette présence militaire dans notre région. Aucune autorité locale n'a daigné donner une quelconque explication. Nous avons appris par la voix des hommes hier, un ministre s'est prononcé là-dessus. Il a dit que c'était dans le cadre normal de renforcement des capacités de l'armée. Nous le faisons bien, mais selon l'information que nous venons de recevoir aujourd'hui, ces armes lourdes sont entreposées dans le camp de la garde républicaine. Nous aurions voulu que ces armes soient gérées par les FRDC. Par exemple, la population s'inquiète en juste titre parce que nous approchons de la période électorale. C'est pour la question de savoir pourquoi seulement les Katanga et pourquoi seulement maintenant, pourquoi ces chars d'assaut sillonnent les grandes avenues de la ville de Lubumbashi particulièrement.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait éventuellement un rapport avec le fait que Moïse Katumbi se soit présenté candidat?
Nous avons raison de le croire. Et d'ailleurs, dans notre lettre ouverte, nous avons dit au ministre que nous serions contents de savoir que ces armes ne seront pas utilisées sur une population civile qui revendiquerait l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, il est vrai que depuis que Moïse a démissionné, depuis qu'il a rejoint le rang de l'opposition, il commence à faire le mouvement des choses dans la province et peut-être que tout ce qui se passe a un lien direct avec le fait que lui et M. Moïse soient retirés de la majorité présidentielle.
Maître Timothée Mbouya, président de Justicia ASBL à Lubumbashi en RDC. Au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzouba Ndama, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue au second semestre de 2016. Il rejoint ainsi la liste des adversaires déclarés du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à ce scrutin. Notamment l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et l'ancien premier ministre, Raymond Dong Sima. Les explications du sociologue gabonais, Anaclet Bissiello.
En arrière-plan de cette annonce de candidature, c'est d'abord la crise du PDG, c'est d'abord la crise du parti au pouvoir. Et je crois que c'est surtout cet arrière-plan-là qui retient l'attention des Gabonais. La candidature s'inscrivant par ailleurs dans un contexte où il y a déjà eu près d'une dizaine de candidatures qui ont précédé la sienne. Donc en résumé, c'est surtout le fait que cette candidature d'un hiérarque ne laisse plus aucun doute sur la crise au sein du PDG.
Le sociologue gabonais Anaclet Bissiello. Les primaires présidentielles aux États-Unis maintenant, les favoris Donald Trump chez les Républicains et Hillary Clinton chez les Démocrates ont chacun essuyé un revers mardi dans l'État du Wisconsin, permettant ainsi à leurs concurrents de légèrement rattraper leur retard dans la course aux délégués pour l'investiture comme candidat à la présidence. Côté démocrate, le sénateur du Vermont Bernie Sanders et chez les Républicains, son collègue du Texas Ted Cruz se présentent désormais comme de sérieuses alternatives dans leur camp respectifs. Pour l'ancien diplomate américain Herman Cohen, les résultats du Wisconsin pourraient inverser les tendances. On l'écoute.
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc, c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc, c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen, merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.